Tous égaux, tous différents.
Bonjour,
une émission de Natacha Laborde sur La Locale.
Bonjour, je m'appelle Elodie.
Tous égaux, tous différents.
Moi, je crois en Dieu.
Moi, je crois en Yahvé.
Moi, je crois en Allah.
Et moi, je crois en rien.
Tous égaux, tous différents.
Moi, je suis blanc.
Moi, je suis noir.
Moi, je suis jaune.
Moi, je suis café au lait.
Et moi, je suis multicolore.
Tous égaux, tous différents.
Bonjour. Après l'Australie et Madagascar, nous voici encore sur une île, au Japon. Vous savez parler japonais? Beaucoup de mots japonais sont utilisés dans la langue courante. Je vous laisse en découvrir quelques-uns. Tokyo, Origami Mikado Kimono, Kami Ikebana Hiroshima, Manga Geisha Shukun, Sake Karate Kamishibai, Samurai, Fukushima Sumotori, Sushi Fuji, Judo Zazen Futon Ryokan, Kyoto. Je pourrais vous parler des mangas dont on a retrouvé l'origine en 710. Oui, oui. Je pourrais vous parler du Go, que l'on dit le jeu le plus ancien du monde. J'ai encore choisi un sujet qui fâche. C'est vrai que le Japon a été victime d'un certain nombre d'événements malheureux, historiques. Dans les mots que je vous ai cités tout à l'heure, il y avait Hiroshima. La première bombe atomique a explosé à Hiroshima le 6 août 1945. On dit qu'il y a eu 75 000 personnes tuées sur le coup, mais c'est difficile de dénombrer le nombre de personnes mortes suite à la radioactivité de la bombe atomique. En tout cas, plus de 250 000 personnes. Dans le parc de la paix à Hiroshima, il y a une sculpture représentant une jeune fille portant à bout de bras une grue. Au Japon, la grue est un animal respecté car il symbolise la longévité et le grand âge. Quand la jeune Sadako, qui n'avait que 2 ans et demi au moment de l'explosion, quand la jeune Sadako a eu 12 ans, elle est tombée malade. Diagnostic: leucémie. Et on dit au Japon que si l'on confectionne 1000 grues en origami, c'est-à-dire en papier plié, les dieux sont satisfaits et votre vœu est exaucé. La jeune Sadako, voulant vivre, a entrepris le pliage des grues. Malheureusement, elle n'a pu plier elle-même que 644 grues. Mais alors, de partout, au Japon et même dans le monde, des enfants ont plié des grues et les ont envoyées à Hiroshima. Hiroshima est aujourd'hui la cité de la paix. Qu'en sera-t-il dans quelques années de Fukushima? Fukushima, ça s'est passé le 11 mars 2011. Ça fait 4 ans maintenant. Mais voici d'abord une petite histoire. Pour bien comprendre cette histoire, il faut que je vous parle du code japonais des foyers qui a été rédigé au 10e, 11e siècle, dans une époque qui correspond à notre siècle des Lumières. Et ce code dictait le comportement d'une épouse et donnait les différentes raisons qui justifiaient son renvoi ou sa répudiation. Mais une épouse répudiée était morte socialement, déshonorée. Les deux premiers motifs sont la stérilité et l'adultère. Et le troisième, qui nous intéresse aujourd'hui, est le manque de piété filiale à l'égard des beaux-parents. Avec une clause comme ça, la jeune épouse était sous la coupe de sa belle-mère. Pour la petite histoire, il me semble intéressant de vous donner d'autres motifs de répudiation. La jalousie. Pour bien comprendre, et ça nous fait penser à d'autres civilisations actuelles, il faut se souvenir que le mari japonais de cette époque-là, en plus de l'épouse principale, avait, selon son rang social et sa fortune, plusieurs épouses secondaires, des concubines en veux-tu en voilà, ce qui n'empêchait pas les visites régulières aux courtisanes. Joli mot pour dire prostituée. Alors, effectivement, pourquoi sa femme aurait-elle été jalouse ? Autre motif de renvoi, le bavardage. S'entend inconsidéré, car il est bien connu qu'un homme parle, explique, discourt, alors qu'une femme babille, bavasse, caquette. Et enfin, la maladie. C'est vrai, à quoi peut bien servir une femme malade ? Autant s'en débarrasser. Mais voici l'histoire. Un homme avait ramené à son foyer comme épouse principale une jolie jeune femme, Anshi. Malheureusement, la grâce de sa silhouette, l'élégance de son maintien, la nacre de ses joues, ne convenaient pas à la belle-mère et elle l'accablait de tâches ménagères. Non seulement elle la faisait travailler, voulant la transformer en une cendrillon, mais en plus, elle l'accablait de paroles blessantes. Bonne à rien, prétentieuse, feignasse. Et Anshi se taisait. Mais un jour, alors qu'elle préparait le riz du repas familial, sa belle-mère est venue l'insulter sans raison valable. Anshi a fait la sourde, comme si les odieuses paroles lui passaient au-dessus de la tête. Mais tout à coup, elle a pris un morceau de bois enflammé et l'a lancé par la fenêtre. Le brandon est tombé sur un mouton, a mis le feu à sa toison. Le mouton affolé a couru droit devant lui et s'est jeté sur une meule de paille qui s'est enflammée. Ce jour-là, il y avait du vent. Le vent a gagné des étables et des écuries. Des bœufs et des chevaux se sont échappés et dans la bousculade ont détruit la maison d'un voisin. Celui-ci, coléreux, a cherché querelle au propriétaire des chevaux. Et ainsi, de proche en proche, de village en village, de province en province, la guerre s'est étendue comme un feu de broussailles et a ravagé tout le pays. Voilà ce que peut engendrer la méchanceté d'une seule personne. Un proverbe dit « Le froissement d'une aile de papillon peut changer le cours des étoiles ». Bye. Mais l'explosion de la centrale de Fukushima a fait beaucoup plus de bruit que le froissement des ailes d'un papillon. Une légende attribue les tremblements de terre au Namazu, un poisson géant qui agite sa queue sous la terre. Très souvent au Japon, les murs tremblent, les lits bougent. La plupart du temps, cela ne dure que quelques secondes. Mais c'est très effrayant. Si les secousses sont fortes, il faut vite ouvrir une fenêtre pour pouvoir sortir de chez soi au cas où la porte d'entrée serait coincée après le séisme. Puis il faut se mettre à l'abri sous une table pour éviter d'être blessé par les objets qui peuvent tomber et surtout ne jamais aller dehors tant que le tremblement de terre n'est pas terminé. Michael Ferrier, un écrivain qui vit au Japon, a fait le récit du désastre Fukushima, publié chez Gallimard en 2012. Je ne vais bien sûr pas vous lire tout le livre, mais en voici quelques lignes. Encore un peu plus au nord, Rikuzen-taka, un des 100 plus beaux sites du Japon, d'après le classement officiel de l'État japonais. Le tsunami se moque de ces nomenclatures. Il a tout dévasté, pulvérisant même la solennité imperturbable du béton armé. Ici, une personne sur 10 est morte. Des quartiers entiers ont été anéantis, avec une violence terrible. Près de la mer, le mur anti-tsunami est en morceaux. Les tripodes de ciment, les boucliers rocheux, les poutrelles métalliques ont volé en éclats, transformés en boulets géants, en flèches d'acier, en projectiles de pierre à travers la ville. Fronde d'eau, balistique insensée, ce qui devait protéger la ville a ajouté à sa destruction. Le béton, la pierre, le bois, le fer, la tuile, tout a cédé à ce rouleau liquide. Les toits sont posés par terre comme des pagodes à même le sol. Sur les rares bâtiments qui ont été épargnés, toutes les fenêtres des étages inférieurs sont cassées. Parfois, entre deux éclats, on distingue le visage d'un habitant ahuri, à la recherche d'un peu de son passé. Partout, des cageots de plastique blanc, des planches de bois, des habitations transformées en brindilles, en fétus. Il y en a de toute matière, de toute taille, de toute forme. C'est un immense mikado composé de milliers de débris épars, à la fois omniprésents et inaccessibles. Il y a des tables d'école, des bouts de moquettes, des lames d'acier, des tubes d'aluminium. Ça sent le poisson pourri à des kilomètres à la ronde. Ce sont des débris lourds, remplis d'eau de mer et qui ont conservé l'empreinte, le poids, l'odeur. Les yeux piquent, le nez coule. Une fine pellicule de poussière semble poser sur chaque chose. Il y a de l'amiante et l'ensemble a été saupoudré de radioactivité. Là-dedans, ajoutez beaucoup de produits toxiques et quelques carcasses de cochons en décomposition. Et toujours, partout, les voitures. une voiture dans un champ, une autre dans un étang, des batailles de voitures, une voiture enfoncée à la verticale dans un tas de boue, une autre dans un temple, pare-brise fracassée sur une lanterne de pierre, certaines le cul dans une flaque, d'autres le mufle dressé, perché dans les airs, sur les toits, dans les arbres, capot ouvert comme la gueule des monstres de Goya. C'est un paysage hallucinant, et le mot, pour une fois, n'a rien d'exagéré. La réalité vacille. Je m'attends à tout moment à voir surgir des musiciens au groin de porc ou un rat qui chevauche une femme. Où mettre tous ces débris, les incinérateurs d'ordures sont parfois détruits, parfois endommagés, et de toute façon, il y en a un nombre incalculable. L'ensemble est difficile à gérer, coûteux à déblayer, compliqué à nettoyer. Moins de la moitié seulement à l'heure actuelle pourrait être stockée. On les entasse en des montagnes de 5 mètres de haut, la hauteur maximale pour éviter les combustions spontanées. Les parcs, les stades, les aires de jeu, les garderies même sont mises à contribution. Le jardin d'enfants est rempli de déchets. Il y a aussi tout ce qui n'a plus de forme, qui ne ressemble plus à rien. Je ne peux pas faire le décompte exact de tous les débris vus, entrevus, ramassés ou traversés. Il y faudrait toute une vie, un livre qui s'engendrerait de lui-même et n'arrêterait pas de s'écrire, un livre de fourmis. En attendant, je marche, j'écris, je longe l'effacement des choses. Comment expliquer le nucléaire? Toute la matière qui nous entoure, l'eau, l'air, la terre, est faite de petits éléments extrêmement petits que l'on appelle les atomes. Il y en a 92 différents, mais il y en a d'autres fabriqués par l'homme. Certains de ces atomes sont dits radioactifs. Comme un canon, ils peuvent tirer un petit obus encore plus petit que l'atome lui-même. Ce sont ces petits obus qui sont dangereux, car ils peuvent traverser le corps humain, comme quand on va faire une radio. Dans un réacteur nucléaire, il y a énormément d'atomes radioactifs. Ils sont enfermés dans un coffre-fort qu'on appelle enceinte de confinement. Le problème à la centrale de Fukushima, c'est que les atomes radioactifs s'échappent dans l'eau et dans l'air. Certains retombent près de la centrale, d'autres sont emportés par les vents tout autour de la Terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que parce que ça s'est passé au Japon, nous sommes épargnés. La Terre, finalement, n'est pas si grande.
Cause
Donc, si l'on mange des légumes pollués, si l'on boit de l'eau polluée, ou qu'on respire de l'air pollué par des atomes radioactifs, ces atomes vont faire des dégâts dans notre corps. Ceux qui travaillent près de la centrale se protègent en s'emballant dans un vêtement qui les recouvre entièrement, mettent un masque pour ne pas respirer la poussière radioactive. Mais ils ne peuvent rien contre le bombardement radioactif et ne peuvent donc pas rester longtemps sur place. Le problème réside dans les atomes radioactifs qui restent radioactifs longtemps. Et quand on dit longtemps, c'est très variable. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs milliers d'années. Je reprends le livre de Michael Ferrier. L'eau, le vent, les feuilles, l'herbe, les champignons, les baies, se rouler dans l'herbe, sentir la pluie sur son visage, au petit matin, odeur de vin et d'algues, dans une rue de Tokyo. Voici quelques échantillons de ce qui petit à petit nous devient de jour en jour un peu plus interdit. La pluie tombe, mais ce n'est plus la pluie. Le vent souffle, mais ce n'est plus le vent. Il porte avec lui le césium et non le pollen, des bouffées de toxines et non des parfums. La mer, tout en continuant à rugir, devient muette de terreur. Elle dilue autant qu'elle peut ses résidus mortifères. Impossible de fuir. Le jour est déjà inhabitable. La nuit s'installe et n'apporte pas l'oubli. Juste la crainte de nouveaux rêves, plus sombres et plus fétides à chaque fois. L'horreur est une atmosphère. Particules perdues, nuages poudreux, rayonnements douteux. Depuis le 11 mars, une expression s'est répandue comme une traînée de poudre, la demi-vie. Elle est tout autour de nous, on ne parle plus que de ça désormais. La demi-vie des éléments radioactifs que les réacteurs nucléaires diffusent par panache, par bouquets plus ou moins intenses, massifs, dilués, parfumés. La demi-vie n'est pas une moitié de vie. Techniquement, c'est un cycle de désintégration. Les déchets et les produits de l'industrie nucléaire mettent un certain temps à se désintégrer, temps pendant lequel ils demeurent nocifs. La demi-vie est une période au terme de laquelle un de ces produits aura perdu la moitié de son efficacité ou de son danger. Cela peut se compter en jours, en années, en siècles, en millénaires. La demi-vie du césium-135, par exemple, est de 3 millions d'années. Ce qui signifie que la moitié de la masse de cet élément se désintègre en 3 millions d'années. Le plutonium produit dans les réacteurs a quant à lui une demi-vie de plus de 24 000 ans, temps nécessaire pour qu'il perde la moitié de sa radioactivité seulement. Si vous avez 80 kg de plutonium, le pourcentage que la compagnie française Areva a fourni en 2010 à Fukushima, il en restera encore 40 kg dans 24 000 ans, et ainsi de suite, selon une courbe décroissante par période de 24 000 ans. Précision, quelques microgrammes suffisent à vous tuer. Le champion toute catégorie de la demi-vie est le zirconium 93 pour sa durée de demi-vie record de 1 530 000 ans. Mais on me murmure que le zirconium 96 fait encore mieux. Côté centrale nucléaire, donc, tout va magnifiquement. Avec un peu de chance, la situation sera revenue à peu près normale entre 30 et 15,7 millions d'années. Un petit peu plus, un petit peu moins. Mon collègue Akira Musabayashi utilise une formule très juste pour décrire cette situation. Un état d'urgence dont on ne voit pas la fin. C'est une catastrophe lente, diluée, une catastrophe continue. Mais on peut donner un autre sens, beaucoup moins technique, à la demi-vie. Les partisans du nucléaire affirment qu'on peut très bien vivre dans des zones contaminées. Pas tout à fait comme avant, certes, mais quand même, la demi-vie. On présente une situation complètement anormale comme normale. On s'habitue doucement à des événements inhabituels. On légalise, on normalise la mise en danger de la vie. On s'accommode de l'inadmissible. La pollution radioactive, la plus nocive, la plus étendue, la plus prolongée, se disséminant dans les airs, plongeant dans les profondeurs de la terre, se diluant sans fin dans les océans, se font pour ainsi dire avec quiétude dans les mœurs, dans les usages et jusque dans les jurisprudences. C'est ce que j'appelle la demi-vie. S'habituer à avoir une existence, amputée de ses plaisirs les plus simples, savourer une salade sans crainte, rester en souriant sous la pluie, à vivre dans un temps friable et mietté, confiné, pour que la machinerie nucléaire puisse continuer comme si de rien n'était, sous prétexte que les principaux effets n'en seront visibles et scientifiquement contestables que dans quelques années, le temps nécessaire pour noyer le poison, et que la situation a toutes les apparences du normal. Insaisissable, impalpable, nébuleuse et irréfutable à la fois, subreptice et pourtant éclatante dans la limaille des jours, la demi-vie s'impose comme le seul modèle de nos économies et de nos modes d'existence. La demi-vie nucléaire, une mort à crédit. Une longue existence de somnambule, toute une vie dans les limbes. On n'est déjà plus dans la vie, pas encore dans la survie. Bienvenue dans la demi-vie. Retrouverez chaque premier et troisième mardi du mois à 18h. Et l'émission sera rediffusée ces mêmes semaines chaque vendredi à 8h. Et si vous êtes curieux, bienvenue sur mon site www.conteuse-en-marche.fr. À la prochaine fois.